Bonsoir. Situation sécuritaire à Goma. Depuis le 4 février, le processus d'enterrement des personnes mortes lors des combats survenus dans la ville de Goma entre les forces gouvernementales et les rebelles du M23 appuyés par le Rwanda a commencé. Ce sont principalement des équipes de la Croix-Rouge qui procèdent à l'inhumation des corps. Les chiffres partagés par les autorités de la RDC font état des plus de 2000 morts et des milliers de blessés. Selon des sources locales, pour la seule journée des mardis, trois camions transportant des morts ont été enterrés au cimetière, je voulais dire, des litiges jadis fermé au public. Sur le plan humanitaire, le coordonnateur humanitaire en RDC, Bruno Lemarquis, appelle à la mobilisation de toutes les parties au conflit pour la réouverture urgente de l'aéroport de Goma au Nord Kivu. Au plan économique, plusieurs infrastructures privées et publiques ont été affectées par des pillages lors des combats entre les belligérants. Comment analyser cette situation? Nous en parlons ce soir avec Jean-Norbert Senga, il est avocat, consultant sur les questions de protection des civils. Il est également ancien chercheur sous la RDC à Amnesty International. Jean-Norbert Senga, bonsoir.
Bonsoir Kelly.
Dismas Kitenge est aussi avec nous dans cette émission, président du groupe Lotus, une ONG de défense de droits de l'homme basée à Kisangani. Il est aussi vice-président honoraire de la Fédération internationale de droits de l'homme, FIDH en sigle. Dismas Kitenge, bonsoir.
Bonsoir Madame Kenikouté, bonsoir tous les collègues débatteurs, bonsoir à tous les auditeurs de la radio Kapi.
Frédéric Amani, depuis Lubumbashi, vous êtes chercheur associé en sciences politiques et relations internationales à l'Université de Lubumbashi. Vous êtes également expert en questions de sécurité, défense et maintien de la paix de l'Institut Thales d'Afrique, basé à Dakar, au Sénégal. Bonsoir.
Bonsoir Madame Kelly, bonsoir aux co-débatteurs et aux auditeurs de Radio Capi.
Vous êtes des milliers à nous suivre en direct sur la page Facebook, la chaîne YouTube et le compte X de Radio Kapi. Si vous êtes à Kisangani, dans la province de la Tchopo, vous nous suivez sous la 94.8. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Je l'ai dit dans mon introduction, le processus d'enterrement des personnes mortes lors des combats survenus dans la ville de Goma entre les forces gouvernementales et les M23 appuyés par le Rwanda a commencé hier 4 février. Ce sont principalement des équipes de la Croix-Rouge qui procèdent à l'inhumation des corps. Les chiffres partagés par les autorités de la RDC font état des plus de 2000 morts et des milliers de blessés. Cependant, certaines ONG locales parlent de plus de 3000 morts. La situation humanitaire reste catastrophique selon plusieurs sources. Pour mieux comprendre ce qui se passe dans la ville de Goma actuellement, Ronelli Tibonira nous fait le récit dans les récits de faits dans cet entretien avec Freddy Bikumbi.
Ronelli Tibonira, bonsoir.
Bonsoir Freddy Bikumbi, bonsoir à tous les auditeurs de Radio Kapi.
Vous avez couvert pour nous la situation de Goma avec un bilan de plus de 2000 morts et des milliers de blessés. Comment cette tragédie est perçue par la population de cette ville?
C'est en désarroi, en désespoir. Ce qui s'est passé à Goma, c'est une situation inimaginable. Perdre autour de 3000 personnes dans une période qu'on appellerait une période où les gens ont compris de grandes notions du droit international humanitaire. Une région où l'on a assisté à une présence de forces qui viennent de partout. Et donc les gens ne comprennent pas, donc personne ne pouvait penser que de tels scénarios, quel drame pouvait se passer dans la ville de Goma. Et à l'heure où je suis en train de te parler, les gens sont dévastés parce qu'au départ, on avait annoncé 773 morts. C'était la première communication du ministre national de la communication. Des chiffres qui ont été revus à la hausse avec les tout derniers rapports publiés hier par OCHA qui fait état des 3000 morts. Ces rapports ont été même relayés par la ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo lors de son intervention au niveau du Parlement européen. Vous comprenez paniquer. Le bilan risque même de s'alourdir tenant compte des corps qui ne sont pas encore ramassés et qui se retrouvent dans des entités comme Kasengesi, l'endroit comme Mogoma et d'autres corps qui sont encore à la prison centrale de Goma. Et donc les gens sont dépassés par les événements.
Et sur le plan humanitaire, la fermeture de l'aéroport international de Goma inquiète les organisations internationales. Quelles pourraient être les conséquences de ces blocages?
Alors là, je vais parler déjà de l'accès à l'assistance humanitaire. Ça fait plus d'une semaine que les combats ont eu lieu dans la ville de Goma. Le voie d'accès au départ était fermée, mais il y a quand même des questions qui sont spécifiques parce qu'aujourd'hui, on parle de plus de 3000 personnes blessées. Il y a des personnes qui ont des blessures graves et qui nécessitent les transferts à l'étranger. Si l'aéroport international continue d'être fermé, tel que même l'a rappelé hier Bruno Le Marquis, qui est le coordonnateur des opérations humanitaires en République démocratique du Congo, on serait en train de se retrouver en train de sacrifier des vies humaines. Et donc, en ouvrant l'aéroport international de Goma, cela va donner l'accès aux humanitaires, non seulement d'amener les médicaments pour soigner tous ces milliers de blessés qui sont enregistrés dans la ville, mais ça va permettre également à la communauté humanitaire de déplacer ces autres personnes dont la prise en charge pose problème au niveau de la ville de Goma.
Au-delà de l'urgence humanitaire, la ville de Goma a également subi de lourdes pertes économiques. Quelle est l'ampleur des dégâts?
Aujourd'hui, ça serait très tôt de parler ou de chiffrer les pertes et dommages en millions de dollars. Parce qu'on voit par exemple le programme alimentaire mondial. Dans la communication de ces jours, on parle de plusieurs tonnes de nourriture qui ont été volées. Les cas de CICR qui intervient dans beaucoup de thématiques, par exemple les traitements d'eau, la question liée aux médicaments. Tous les médicaments ont été volés et sur les images, je vous assure que les entrepôts du CICR sont vides. Lorsqu'il faut parler du tissu économique, vous posez la question à tous les entrepreneurs, à des grandes sociétés. Je veux parler par exemple des établissements Kanzoli qui ont perdu plus d'un million de dollars américains. Ça va prendre beaucoup de temps pour que Goma puisse encore sortir de cette situation, telle que même le président de Boutiquier venait de le dire. Il faudrait 5 voire même 10 ans pour que Goma puisse retrouver sa situation du 24 janvier 2025.
Merci Ronelly Tibonera et Freddy Bikumbi. Plus de 3000 morts selon OCHA et certaines ONG locales. Le gouvernement parle lui de plus de 2000 morts et des milliers de blessés. Des chiffres qui font froid dans le dos. Comment est-ce possible? Jean Maubert Senga, vous êtes avocat et consultant sur les questions de protection des civils, mais également ancien chercheur sur la RDC à Amnesty International. Ces bilans que je viens de présenter risque même de s'alourdir. Vous avez suivi ce récit nous fait par Ronelly Tibonera. Jean-Maubert Singa, votre réaction?
Merci Kelly. Tout d'abord, il faut avoir une pensée pieuse pour toutes les familles qui pleurent les leurs, qui sont morts, d'autres qui sont portés disparus, d'autres qui croupissent dans ces hôpitaux totalement débordés et qui n'ont plus de médicaments ni de matériel. Donc ma première réaction, c'est vraiment exprimer ma douleur, ma colère même, et souhaiter aux malades la guérison et à ceux qui font le deuil beaucoup de force et de courage. Maintenant, ce qui, votre correspondant l'a dit, ce qui s'est passé à Goma est totalement inédit. Pourtant, Goma a été au centre des guerres que la RDC a connues ces 30 dernières années. Je suis moi-même de Goma et on en a vu des choses. Mais ce qui s'est passé, c'est que nos familles, nos amis rapportent, est totalement inimaginable et totalement inédit. Et enfin, pour laisser la parole aux autres, sur le bilan lui-même, si on essaie de regarder froidement, c'est vrai que les chiffres font froid dans le dos. Peut-être l'occasion d'y revenir. Il est pour le moment difficile de distinguer les civils et les militaires, les combattants, parmi les personnes qui ont été tuées. Il est tout aussi difficile de déterminer avec exactitude qui a été tué par qui. D'ailleurs, c'est impossible carrément, parce qu'on a eu des combats entre deux parties, l'armée rwandaise et le M23 d'une part, l'armée congolaise, les Wazalendo, d'autre part, et évidemment la population civile qui était prise entre le feu.
Alors, l'inhumation des corps a commencé hier 4 février, mardi 4 février, et nous apprenons que certains corps sont enterrés dans des fosses communes, ce qui serait difficile d'identifier toutes les personnes, mais beaucoup, hein, beaucoup de Congolais, beaucoup d'organisations non gouvernementales appellent à une enquête indépendante pour identifier toutes ces personnes pour savoir qu'est-ce qui s'est passé exactement. Vous pensez
oui,
que c'est faisable?
Tout à fait. Dans une situation de guerre comme celle-là, déjà, les civils devraient être épargnés automatiquement. Le droit international humanitaire interdit strictement les parties au conflit à s'en prendre aux civils. Il leur enjoint également de tout mettre en œuvre, de tout faire pour limiter au maximum les pertes civiles. Et là, on parle juste de vie, mais on pourrait étendre plus loin et parler des infrastructures civiles, comme par exemple les hôpitaux, les écoles, mais même les biens privés tels que les magasins, les maisons, etc. Mais quant à ce qui concerne les militaires et les combattants, c'est-à-dire les personnes qui prennent part au combat, ce même droit international humanitaire permet à ce que les militaires, ceux qui se combattent, puissent se tuer entre eux, si on peut le dire de manière crue. Par contre, s'il y en a qui déposent les armes, qui sont blessés, qui sont faits prisonniers et qui ne sont plus donc en état de combattre, le droit les protège également. Donc ces personnes ne doivent, l'autre partie ne peut pas s'en prendre à des personnes qui ne sont plus en état de combattre pour les raisons que je viens de citer. Et c'est pour cela donc qu'il y a cet appel à des enquêtes qui pourraient déterminer dans quelles circonstances ces personnes sont mortes, qui étaient-elles, étaient-ce des combattants, étaient-ce des civils, si c'était des combattants, étaient-ce pendant des affrontements ou étaient-ce des gens qui ont été exécutés après avoir été faits prisonniers ou après avoir déposé les armes ou après avoir été blessés. Et si c'était des civils, est-ce qu'ils ont été ciblés de manière délibérée ou bien est-ce qu'ils ont été pris entre les feux croisés? Et si c'est entre les feux croisés, est-ce qu'on aurait pu éviter ces morts, etc. Donc il y a énormément de questions qui méritent des réponses. Et dans les conditions actuelles, la seule manière de trouver des réponses, ce serait une enquête indépendante. Et même si les corps sont déjà enterrés, il existe toujours des procédures, par exemple, pour déterrer et examiner les corps.
Et qui devrait mener cette enquête, Jean-Maurbert Senga, selon vous? Déjà aujourd'hui, on a le bureau du procureur de la Cour pénale internationale qui lance une demande urgente à la coopération et à la soumission d'informations de la part de tous les partenaires sur la situation en RDC.
Alors justement, on imagine bien que les autorités congolaises ne sont pas pour le moment en mesure d'enquêter sur ce qui s'est passé, d'autant plus que Goma échappe à leur contrôle. Même lorsque Goma était sous leur contrôle, d'ailleurs, on connaît les faiblesses du système judiciaire congolais. Il y a eu, par exemple, en 2013, le massacre des adeptes d'un groupe politique et religieux appelé Wazalendo à Goma par l'armée congolaise cette fois-ci. Il n'y a jamais eu de réelle enquête. Il y a eu un procès, mais qui était très, très, très limité, et qui n'est pas parvenu à rétablir toute la vérité. D'ailleurs, j'en profite pour signaler que certains membres de ce groupe qui étaient injustement emprisonnés sont morts en prison lorsque la prison a été incendiée lors de l'attaque du M23 et de l'armée rwandaise. Mais ça, c'était une parenthèse. Donc, pour revenir sur les enquêteurs, la Cour pénale internationale a actuellement une procédure, une enquête en cours sur l'est de la RDC, sur le Nord Kivu. Et cette affaire-là, donc s'il y a eu des potentiels crimes de guerre ou crimes contre l'humanité, ça reste à établir, ça rentre dans les attributions de la Cour. Il pourrait également s'agir d'un mécanisme ad hoc qui peut être décidé par exemple par le Conseil des droits de l'homme, mais qui n'est pas un mécanisme judiciaire. Donc ça peut être ce qu'en anglais on appelle fact-finding mission, qui va sur place et qui va rétablir les faits. Mais ces faits-là doivent ensuite être soumis à des autorités judiciaires habilitées à émettre des mandats, à déterminer les responsabilités, etc.
Merci. Disma Soekitenge, vous êtes président du groupe Lotus, une ONG de défense des droits de l'homme basée à Kisangani dans la province de la Tchopo. Vous êtes aussi vice-président honoraire de la Fédération internationale de droits de l'homme, FIDH, en sigle Disma Soekitenge. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pouvez dire? Quelle lecture vous faites de ce qui s'est passé dans la ville de Goma? 3000 morts. C'est des chiffres officiels, puisque la ministre des Affaires étrangères l'a dit aujourd'hui devant le Parlement belge, plus de 3000 morts. Comment vous analysez cette situation? Comment on en est arrivé là? Disma Soekitenge me dit qu'il n'est plus en ligne. On va essayer de le rappeler. Frédéric Amani, vous pouvez répondre à la question.
Bien, merci beaucoup. Je crois que nous en sommes arrivés là parce que il y a cette montée de l'anomie, et cette montée de l'anomie est expliquée par le fait que, eh ben, il y a cette impunité qui continue à gangréner la région. Il y a aussi cette indifférence aussi de la communauté internationale. Il y a aussi ces failles qu'on peut constater dans l'intensification de l'autorité de l'État. Et c'est nombre de plus de 2000, c'est un nombre qui dérange, dans la mesure où, vous l'avez dit dans votre reportage, l'enterrement dans des fosses communes où les civils, c'est-à-dire les familles des civils, n'auront pas accès à enterrer leurs frères dignement. Et on ne sait pas, du côté de l'armée congolaise, il y en a eu combien, du côté des rebelles aussi. Et je crois que cette situation doit être réglée, comme le reportage l'a dit, surtout la crise humanitaire, la catastrophe humanitaire. Voilà pourquoi je pense qu'il est plus qu'urgent qu'un pont aérien soit mis en place pour éviter à ce que la catastrophe ne puisse pas dégénérer. Il ne faut pas oublier que la province du Nord Kivu, et particulièrement Goma, fait face aussi à un certain nombre d'épidémies. Or, tant que la ville de Goma, pour l'instant, sera en quelque sorte enclavée, eh ben, avec n'est-ce pas, la fermeture de l'aéroport, il y a aussi la fermeture du lac Kivu, je crois que cette situation risque d'embraser même d'autres provinces, Sud Kivu, Maniema et même les pays voisins. Donc, il va de l'intérêt du gouvernement congolais, parce que le droit international humanitaire s'applique, n'est-ce pas, aux États. Il va aussi de l'intérêt du Rwanda, qui soutient, n'est-ce pas, le mouvement des rébellions.
Alors, avec ce chiffre qu'on a, 3000 morts dans la ville de Goma, est-ce que vous pensez que le droit international humanitaire a été respecté de part et d'autre?
Non, malheureusement, le droit international n'a pas été respecté. Bon, puisque nous parlons de droit international humanitaire, je voudrais faire un élément ou évoquer un élément, c'est que du point de vue du droit international humanitaire, je prends le volet du droit de la guerre, cela n'a pas été respecté dans la mesure où, dans le droit international humanitaire, volet droit de la guerre, eh bien, cela exige aux belligérants de ne pas utiliser dans leurs moyens de défense les armes excessives, c'est-à-dire il faut une utilisation proportionnelle des armes. Mais malheureusement, ça n'a pas été respecté. Dans le cadre toujours du droit international humanitaire, en prenant le volet droit de Genève ou même droit de l'homme, tous ces droits n'ont pas été respectés. Et du côté, on doit avoir le courage de le dire, du côté des gouvernements et du côté de la rébellion. Voilà pourquoi j'encourage à ce que les enquêtes soient diligentées pour rétablir les responsabilités. Ça, c'est de un. d'aider. Je crois que, puisqu'il y a déjà cette catastrophe économique par rapport au pillage qu'il y a eu, et cette catastrophe humanitaire par rapport au déplacement des civils et abandon des malades dans des hôpitaux, je crois que il va de l'intérêt du mouvement des rébellions M23 AFC qui contrôle Goma de respecter les cessez-le-feu qu'ils ont, n'est-ce pas, déclenché pour que la catastrophe ne puisse pas embraser la région. Ça c'est de un, mais il va aussi de l'intérêt de la communauté internationale, ou je vais le dire mieux, des organisations sous-régionales auxquelles les États impliqués à cette conflictualité appartiennent, de faire pression aux acteurs pour que, cette fois-ci, les droits humanitaires soient respectés. Dans les cas contraires, il est vrai que, de part et d'autre, on veut récupérer des territoires ou des entités, mais on ne doit pas gérer les arbres, excusez-moi de le dire ainsi, on doit gérer des hommes. Le pouvoir s'établit sur le territoire en gérant les hommes. Mais si ces hommes ou ces personnes sont tués, on ne va pas gérer les animaux. Voilà pourquoi nous pensons que les enquêtes doivent être diligentées, mais le respect des droits humanitaires doit être de mise pour éviter les catastrophes humanitaires afin que la RDC, l'impunité ne puisse pas demeurer impuni, si je peux le dire ainsi.
On me signale que Dismas Kitenge est en ligne. Dismas, vous êtes là?
Oui, Kelly, écoutez, je suis là.
Alors, comment vous analysez ces drames dans la ville de Goma? On parle de 3000 morts et des milliers de blessés. Votre lecture, Dismas Kitenge?
Merci beaucoup. D'abord, je dois le dire, comme acteur de droits humains qui a suivi, qui a vécu ce genre de scènes déjà qui s'en gagnait.
Qui s'en gagnait, exactement.
En 2000, il y a eu la guerre de six jours entre les deux armées étrangères avec leur mouvement rebelle. J'ai suivi aussi, j'ai vécu dans la partie est. Je vais dire que Goma a connu des affrontements le plus meurtrier de son histoire et de l'histoire de la RDC. C'est vraiment une première qu'on connaisse une catastrophe, un carnage de ces niveaux-là. Et ça doit révolter non seulement les Congolais, mais toute l'humanité, puisque ce sont des graves crimes qui ont été commis là. Alors, je parle d'abord du constat. Le constat, c'est que les deux parties ont décidé de faire la guerre dans une ville habitée par plusieurs populations civiles. Déjà, faire la guerre dans la ville de Goma, où il y a à peu près 2,5 millions de la population civile,
sans compter les déplacés,
le droit international humanitaire.
Sans compter tous les déplacés,
on serait dans les 3 millions, 4 millions, et que les deux belligérants décident de faire la guerre dans la ville, où habitée par la population civile, c'est déjà une violation massive et flagrante du droit international humanitaire que toute l'humanité doit dénoncer et pour laquelle on doit demander des sanctions. Ça, c'est le premier constat. Deuxième constat, c'est que la nature du conflit est déjà complexe. Nous sommes là, non seulement devant ce qu'on appelle un conflit armé international, puisque ça a opposé les deux armées de pays souverains, donc d'un côté la RDC, de l'autre côté le Rwanda, mais ensuite aussi avec leurs milices. C'est que nous avons deux types de conflits. Il y a les conflits armés non internationaux et les conflits armés internationaux. Et là, tous les éléments de ces deux types de conflits sont rencontrés déjà dans ces genres de conflits. C'est un conflit complexe, un conflit grave qui a des aspects à la fois internationaux et des aspects nationaux. Et ça doit intéresser. C'est le deuxième constat que je dresse. Troisième constat, c'est que finalement, la communauté internationale qui a été prévenue, qui a suivi la gravité et la dangerosité de ce conflit, n'a pas mis le moyen nécessaire pour pouvoir les empêcher. Le moyen nécessaire, c'est qu'il fallait peut-être une force internationale pour empêcher. Puisque ce qui s'est passé à Goma, non seulement c'était prévisible, mais on n'a rien fait. Que ce soit les deux belligérants qui portent déjà une partie de la responsabilité pour avoir choisi de faire la guerre dans cette ville, mais aussi la communauté internationale qui était prévenue que c'était une ville déjà avec beaucoup d'habitants et une ville avec beaucoup de déplacés, devait prévenir pour empêcher la commission de ces actes. Mais l'inertie de la communauté internationale qui devait choisir une formule d'une force dissuasive, une force c'est pour empêcher ces canards. On pouvait empêcher les canards. Mais malheureusement, la communauté internationale, avec aussi les acteurs nationaux, internationaux, régionaux que je venais de marquer, les deux pays, mais ont accepté de commettre ce crime-là. Alors, ça, c'est le troisième fait. Le quatrième fait, ce qui s'est passé là, c'est terrible. Nous avons connu quel type? Parce que moi, je compare avec ce que nous avons connu à Kisangani. On a connu donc des bombardements indiscriminés. Et ça s'est passé à Goma, exactement. Donc, les gens, les belligérants ont commencé à se tirer dessus, à bombarder, sans tenir compte de l'évacuation de la population civile. Parce qu'ils savaient que Goma était déjà assiégée. Le rebelle et l'armée rwandaise savaient. L'armée congolaise rwandaise savait. Alors, ils n'ont pas pris de précautions, même d'évacuer les populations civiles, de les protéger, de ne pas faire la guerre en pleine vie. Mais ils ont fait ça. Ce sont des crimes graves, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. Les attaques généralisées contre les populations civiles. La prise en otage de la population civile, la prise de, comme bouclier humain de la population, ça s'est passé à Goma, exactement comme à Kisangani. Exactement comme à Kisangani, à 2000, un peu partout, il y avait la guerre. Et ça, ce sont des crimes graves qui appellent une réponse aussi appropriée, efficace de la communauté internationale. Et quand on parle des enquêtes, c'est vrai, il faut qu'on fasse des enquêtes. Mais en attendant les enquêtes le plus fusées, la Cour pénale internationale est déjà là, en train de faire des enquêtes depuis longtemps. Mais la Cour pénale traîne aussi. Puisque là, il faut d'abord saisir les autorités, les auteurs de ces crimes-là sont connus de part et d'autre. Il y a moyen de mettre déjà des fermes, des actions dissuasives pour mettre déjà l'action publique en mouvement contre les auteurs, les dirigeants politiques de tous les partis en conflit, les commandants de ces forces-là qui sont responsables. Et ça, la Cour traîne aussi. Et ça, il faut le faire, puisque la Cour pénale internationale est compétente pour ces crimes qui ont été commis à Goma. Il faut qu'on se dise, ce sont des crimes contre l'humanité. Ce sont des crimes de guerre. D'abord, des crimes de guerre. Ça, on se met d'accord avec les attaques contre les populations civiles, le meurtre des populations civiles, le bombardement de quartiers, aussi l'utilisation des armes excessives, comme un des collègues venait de dire. Alors, tout cela demande que la communauté internationale aujourd'hui puisse se prendre en charge. Puisque nous avons connu des cas de génocide. On n'a pas pris des précautions pour que les cas de génocide, les cas de crimes graves, les crimes de masse, ne se commettent plus dans un des coins de la terre. On voit ce qui s'est passé en Ukraine. Mais aujourd'hui encore au Congo, nous avons le même cas, et des cas même très graves d'avoir 3000 morts. Mais bien sûr que les enquêtes seront là. Mais il faut des actions, des grands éclats, mais qui ne demandent pas des enquêtes qui sont trop fouillées. Puisque la Cour est déjà là, on peut étudier, par exemple, pour être concret, la chaîne de commandement. La chaîne de commandement de ces différentes armées ou de ces différentes milices qui combattent et qui ont été à la base de ces crimes qui ont été commis à Goma. Et on connaît les acteurs, on connaît les grands commandants qui ont planifié ces crimes-là à Goma. Mais par exemple, empêcher Goma, nous savions que Goma était déjà asphyxié, étouffé. Il n'y avait pas de voie d'évacuation des biens. Bien avant, une semaine, deux semaines avant les affrontements à Goma. Mais ça aussi, n'est pas créer des couloirs humanitaires, n'est pas permettre, c'est vouloir étouffer, vouloir asphyxier la population pour qu'elle meure déjà.
Merci.
Et comme on dit, il n'y a pas de couloir humanitaire, comme on dit. Mais c'est fait d'une façon délibérée. Délibérée pour mettre la population, pour planifier l'exécution de la population.
Merci, voilà, Dismas. On vous garde encore. Dans cette émission, Jean-Maubert Senga, très rapidement, un commentaire sur la situation humanitaire qui reste, qui est catastrophique, hein, selon plusieurs sources, dans la ville de Goma, raison pour laquelle le coordonnateur humanitaire en RDC, Bruno Lemarquis, appelle à la mobilisation de toutes les parties au conflit pour la réouverture urgente de l'aéroport de Goma au nord Kivu.
Effectivement, les Nations Unies ont raison de s'alarmer. L'aéroport international de Goma ne sert pas seulement le 1 million et demi ou entre 1 million et demi et 2 millions de personnes qui sont à Goma. C'est aussi important pour faire arriver des intrants et d'autres et de l'œil humanitaire destiné au reste de la province et même à une partie du Sud Kivu qui est aussi qui fait face également au combat ces dernières semaines. Les conséquences de cette situation-là, comme le marquis l'a dit, risquent d'être catastrophiques parce que enfin, elles sont déjà catastrophiques, mais ça pourrait s'aggraver. On parle de risque d'épidémie avec l'épidémie de Mpox qui est déjà en cours, l'épidémie de choléra et d'autres maladies, mais également l'accès aux soins. Là, on parle de blessés. Quelques milliers de blessés, mais il y a également des personnes qui sont tout simplement malades, qui souffrent de malaria ou d'autres maladies ordinaires, d'enfants qui sont mal nourris à cause de ces années de guerre dans la région. Et tous ces gens-là ont besoin d'aide. Et je rappelle qu'au-delà de l'accès, l'aide humanitaire pour la RDC est extrêmement sous-financée. Donc, au-delà de la question de l'accès, il faut également mettre la main à la poche et ajouter des fonds pour que les organisations humanitaires puissent avoir de quoi venir en aide à tous ceux qui sont dans le besoin. Ce message-là, le plus souvent, on a tendance à l'adresser à la communauté internationale. Et évidemment, en matière de réponse humanitaire, la communauté internationale a une responsabilité. Mais le gouvernement congolais aussi en a. Et c'est aussi ici l'occasion d'interpeller le gouvernement qui, pendant toutes ces années, les trois années de la crise du M23, n'a pas déboursé grand-chose pour venir en aide aux centaines de milliers de personnes qui étaient entassées autour de Goma. Et là encore, on ne parle que de Goma, mais il y en a également dans le Lubero, il y en a dans le Walikale, dans le territoire de Kalehe, dans les territoires de Rutshuru et Masisi, ils sont un peu partout. Non, mais c'est Goma où il y a le plus de regards. Et même là, les besoins sont énormes. Ils ne sont pas satisfaits. Le gouvernement doit absolument mettre les moyens pour que ceux qui sont dans les besoins puissent être assistés. Alors, si cela n'est pas fait, il y aura des conséquences, y compris légales, juridiques, pour tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, entravent l'arrivée de l'aide humanitaire. Donc, que ceux qui sont les autorités de fait de ces zones qui sont occupées aujourd'hui, c'est-à-dire le M23 et ses parrains rwandais, pourraient porter une responsabilité, y compris sur le plan légal, au cas où elles continuaient, d'une manière ou d'une autre, à empêcher ou à ralentir l'accès des populations à l'aide humanitaire.
On va donner la parole aux auditeurs qui sont très très nombreux à nous suivre partout en RDC et même en dehors du pays. Vous êtes très nombreux à nous suivre sur le compte X de Radio Okapi. On va prendre cet auditeur qui nous appelle depuis la ville de Bukavu, au sud Kivu.
Je suis Emina Mwanda Hassani Kangolingoli depuis la ville de Bukavu au sud Kivu. La situation alarmante qui se vit au nord Kivu, particulièrement dans la ville de Goma, en ayant plus d'une famille innocente dans la ville précitée et dont les preuves de dégâts humains font couler des larmes et amplifient le misère de tout un peuple, mérite des solutions urgentes et concrètes pour une paix durable afin d'empêcher la résurgence de ce massacre de criminalité de haut degré. L'enterrement des non-compatriotes qui ont payé le prix de la paix par leur vie devrait être fait dans l'esprit d'unité nationale tout en déclenchant une journée ville morte sur toute l'étendue du pays afin de montrer à la face du monde notre cohésion nationale et notre solidarité.
Frédéric Amani, brève réaction sur le point de vue de cet auditeur de Bukavu. Dans votre première intervention, vous aviez déjà évoqué l'aspect humanitaire qui est catastrophique dans le Nord Kivu, plus précisément dans la ville de Goma. Mais comment vous réagissez au point de vue de Emina qui nous a appelé depuis Bukavu?
Bien, merci. Je remercie la réaction du compatriote de Bukavu. Je crois que en résumé ou de manière plus brève par rapport à sa question, c'est que je pense qu'il faut mettre en place, n'est-ce pas, le respect de l'un des grands principes du droit humanitaire, c'est le principe de l'humanité et le principe de la nécessité. Face à ce qui se passe à l'Est, comme il a dit d'ailleurs dans sa question, il faut que les efforts soient mis en place pour éviter une autre catastrophe. Il faut que les efforts soient mis en place pour respecter les droits humanitaires, respecter, n'est-ce pas, les droits de l'homme. Tous ces efforts doivent être mis en place par les gouvernements congolais, par la rébellion qui occupe aujourd'hui certaines localités ou certains territoires, mais aussi par les États impliqués, et le Rwanda, l'Ouganda, et aussi par la communauté internationale. Je crois que cela va davantage permettre à ce que ce qu'on appelle les droits de la solidarité, qui est considéré comme le droit de la troisième génération, parce que les citoyens civils ont droit à la paix, ont droit à la gouvernance démocratique, et ce qui se passe à Goma actuellement, eh ben, n'est-ce pas, est inimaginable. Et nous pensons que cela va faire en même temps un plaidoyer auprès des parties impliquées à cette conflictualité pour que la paix et la sécurité reviennent et surtout que le droit humanitaire dans tous ses corollaires soit respecté.
On va prendre cet autre auditeur qui nous appelle depuis, qui est ici à Kinshasa. Voilà.
Je suis Junior Bompongo depuis la ville-province de Kinshasa. Ces chiffres alarmants de pertes en vies humaines et en matériel prouvent à suffisance les caractères sans pitié des sympathisants rwandais dans le territoire congolais. Si ces derniers se considèrent comme des libérateurs comme ils les prétendent, qu'est-ce qui peut justifier de telles exactions sommaires, surtout dans le but de protéger une minorité prétendument assurée de leur protection? Ces actes ne sont pas seulement une trahison des principes de liberté et de justice, mais ils révèlent également l'exploitation d'une situation de vulnérabilité pour imposer des intérêts étrangers. Il est donc impératif de ne pas se laisser piper et de rendre justice aux victimes en veillant à ce que l'impunité ne trouve aucune place dans notre territoire. Merci.
Que l'impunité ne trouve aucune place en RDC, Dismas Kitenge, votre réaction?
Ma réaction, c'est que l'auditeur a bien dit, mais ceux qui se commettent là, au Kivu en général, nord et sud Kivu, sont des crimes internationaux, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, les crimes sexuels, les crimes d'agression, qui aujourd'hui doivent être poursuivis et réprimés par la Cour pénale internationale. Nous avons la Cour pénale internationale qui est là. La RDC a ratifié les statuts de Rome. Tous les crimes commis sur son territoire peuvent être poursuivis. Et nous avons un bel exemple. Pourquoi? Puisque même le Rwanda qui n'a pas ratifié, mais les soldats rwandais qui ont commis ces crimes sur notre sol peuvent être déférés devant la Cour, peuvent être saisis et déférés devant la Cour. C'est un cas intéressant. Mais aussi, il y a la justice congolaise qui doit faire son travail, puisqu'il y a aussi la coopération de tout le monde. Les victimes doivent s'exprimer, doivent exiger, la société civile doit documenter. Lorsque le collègue d'Amnesty, Senga, qui dit qu'il faut des enquêtes, mais il faut aussi que la documentation, malgré la difficulté du contexte de conflit armé, soit faite aussi par la société civile. Pour l'exemple de Kisangani, pendant toutes les guerres, nos organisations ont fait la documentation et étaient en train de faire la documentation. Et pour ça, il faut que la communauté internationale, le gouvernement de la RDC, les autres bailleurs et de la société civile aujourd'hui du Nord au Sud Kivu à avoir les capacités de documenter d'abord. Puisque c'est nous qui avons fait ce qui s'est passé à Kisangani et après on a présenté Amnesty International, Human Rights Watch, aux Nations Unies, que voilà ça, c'est les populations. Et là, nos collègues qui sont là à Goma, qui ont subi tout ça, puissent avoir le moyen, malgré leurs difficultés, d'être soutenus et d'être protégés et de commencer déjà à faire les récoltes de premiers éléments qui peuvent faire une bonne documentation à présenter à tout le monde. Et c'est l'effort de tout le monde à faire, et nous, comme nous avons déjà connu dans le passé de tels cas, c'est le moment aussi de soutenir cette société civile qui est restée là, qui n'a pas fui la guerre. Il y a des défenseurs des droits humains là, il faut les soutenir. Il y a des organisations humanitaires qui doivent collaborer d'une manière ou d'une autre avec les institutions nationales et internationales chargées de la justice et des droits humains pour transmettre ces données-là. C'est sur base de ces données-là qu'un travail de fouille, un travail de justice peut se faire. Donc, évidemment, il n'y a pas de paix sans justice. Hein. Nous voulons la paix, mais nous, en même temps, nous devons avoir aussi la justice. Au nom de la paix, nous ne pouvons pas accepter aujourd'hui que tous ces crimes qui ont été commis ne soient pas poursuivis, soient amnistiés. Pas question d'amnistie pour les crimes internationaux. Les crimes internationaux, les crimes les plus graves, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les crimes de génocide, les crimes sexuels, les crimes de torture ne peuvent jamais être amnistiés. Ça, il faut que le belligérant le sache et que la population, la société civile tienne et que le gouvernement le rappelle aussi. Puisque le processus de paix qu'on est en train d'initier ne soit pas un crime, que ne soit pas une prime à l'impunité. Voilà ce que je te dis.
Morgan Senga, on va prendre aussi pour vous ce dernier auditeur qui nous appelle depuis la ville de Goma, au Nord Kivu.
Je suis Dr Mikael Bolingo Sebdesi, à partir de la ville de Goma. Nous déplorons tous cette façon d'inhumation de nos compatriotes. J'aimerais savoir si les membres de différentes familles ont été associés et avant la passation à cet acte. Nous sommes fatigués de la guerre, surtout nous qui vivons dans la partie est. Un des aspects à souligner est l'accès au pouvoir de certains politiciens qui demeurent une des causes. Nous devons chercher une solution parce que beaucoup de Congolais sont sérieux, surtout les politiciens congolais sont sérieux lorsqu'ils sont à la recherche du pouvoir. C'est ainsi qu'ils commencent à signer des accords sans pour autant associer les administrés. Malheureusement, c'est nous qui sommes des victimes. Un aspect aussi très important qu'il faut signaler, les agents ne sont pas motivés. Les médecins, les infirmiers, les paramédicaux ne sont pas jusqu'aujourd'hui motivés. Je dis et je vous remercie.
Alors, on sent la désolation, hein, parce qu'on suit Dr Bolingo de Goma. Les gens sont fatigués de la guerre. Il faut trouver vite des solutions au plan économique. Je l'ai dit, plusieurs infrastructures privées et publiques ont été affectées par des pillages lors des combats entre belligérants. Beaucoup d'emplois perdus aujourd'hui. Comment tout cela va se relever? Selon vous, Morbert Senga.
Oui, alors effectivement, les gens sont fatigués d'ailleurs. Et j'espère vraiment que cette guerre peut être et va être la dernière. Mais pour que cela soit le cas, il faut qu'on montre qu'on a tiré les leçons. Monsieur Dismas Kitenge a parlé de la question de la lutte contre l'impunité. Alors qu'on voit clairement qu'on se dirige vers de nouvelles négociations, il ne faut pas que cette fois on puisse insérer une clause d'impunité dans d'éventuels accords qui pourraient être signés à l'endroit de ceux qui ont commis le crime de Goma. Mais Goma, ce n'est que le dernier cas en date. Il y a eu Kififé avant cela, il y a eu Bambou, il y a eu des crimes partout et par toutes les parties. Ça aussi, c'est très important. Pas seulement le M23 et l'armée rwandaise, l'armée congolaise, les Ouazalendo, tout le monde a commis des crimes. Et il ne faut pas que d'éventuels accords politiques qui pourraient être signés puissent, une fois de plus, donner une sorte d'amnistie ou de pardon ou d'oubli, une carte blanche à ces personnes, parce que c'est ce qu'on a fait depuis 30 ans et c'est ce qui fait que ces crimes ne cessent de se répéter. Et un dernier commentaire, puisque je pense que votre temps est en train de s'épuiser.
Nous sommes à la fin de l'émission. Voilà. Hein. Quel est son privé, voilà, hein, de ce drame de Goma, Maître Morbert Senga?
Pardon?
J'ai dit, quelle leçon?
Oui, la leçon, c'est d'abord, il y a beaucoup de leçons, c'est malheureusement impossible.
Essayez de vous résumer.
Mais pour moi, la plus grande leçon que les gens doivent tirer, c'est que cette guerre doit être la dernière. Et s'il faut que les autorités à Kinshasa prennent leurs responsabilités, il faut que la population fasse prendre leurs responsabilités. Ce n'est pas seulement une affaire de l'agression, c'est aussi une affaire de ce qui a permis à cette agression même d'exister et à ces crimes de se commettre. Je rappelle que jusqu'au 27 au 28, alors que Goma était déjà tombé, il y a des politiciens à Kinshasa ça qui continue à s'amuser en disant aux Ouazalendo, vous allez résister, la population, vous allez résister. Mais comment vous résistez main nue contre une armée qui a envahi la ville? Donc ces politiciens devraient également être tenus responsables.
Merci, Morbert Senga. Je rappelle que vous êtes avocat consultant sur les questions des protections des civils. Vous avez également été, vous avez travaillé à Amnesty International hein, comme ancien chercheur sur la RDC. Frédéric Abani, chercheur associé en sciences politiques et relations internationales à l'Université de Lubumbashi, expert en questions de sécurité, défense et maintien de la paix de l'Institut Thalès d'Afrique, basé à Dakar au Sénégal. Aujourd'hui, il y a la pression sur la ville de Bukavu. Comment épargner cette ville de ce qui s'est passé à Goma?
Pour épargner cette ville de ce qui s'est passé à Goma, c'est que l'État doit prendre toutes ses responsabilités en tant qu'un État capacitaire en répondant à ses missions régaliennes, sécuriser les territoires et la population avec leurs biens. Ça, c'est de un. De deux, la communauté internationale doit faire pression aux belligérants, surtout aux rebelles, de cesser, de respecter le cessez-le-feu et de se retirer des zones occupées pour que la population soit épargnée et insister sur le respect des droits humanitaires. Dans les cas contraires, on risque, ce que je ne souhaite pas, on risque d'assister à ce qui s'est passé à Goma et ce sera malheureux. Et avec votre autorisation, je crois qu'il y a une interpellation de Martin Luther King qui disait « Je refuse de croire que l'être humain soit qu'un fétide de paille ballotté par les courants de la vie sans avoir la possibilité d'influencer en quoi que ce soit le cours des événements. Je refuse de partager la vie de ceux qui prétendent que l'homme est à ce point captif de la nuit, sans étoile de racisme et de la guerre, que l'aurore radieuse de la paix et de la fraternité ne pourra jamais devenir une réalité. Je vous remercie.
Merci Frédéric Amani, Dispense Kitenge, président du groupe Lotus, une ONG de défense de droits de l'homme basée à Kisangani dans la province de la Tchopo. Vous êtes aussi vice-président honoraire de la Fédération internationale de droits de l'homme, FIDH. En sigle, votre conclusion, Dispense Kitenge.
En trois mots, en trois phrases. La première, c'est la violence est condamnable. Les Congolais en ont marre de la violence. Les Congolais ne veulent plus de la violence sous toutes ses formes. Les Congolais aspirent à la paix. Les Congolais veulent la paix. Et il faut imposer la paix. Il faut chercher la paix par tous les moyens. C'est la première chose. Deuxième chose, c'est la paix. La paix, lorsque j'ai dit la paix passe aussi par les dialogues. Il faut donc que les Congolais se parlent entre eux-mêmes. Les Congolais privilégient les intérêts de leur pays. Il faut aussi que cette paix revienne entre les États. Nous devons vivre en paix. Nous ne sommes pas condamnés à faire la guerre. Le Congolais n'est pas un peuple de la guerre, c'est un peuple de la paix.
Troisième phrase.
Qui condamne la violence. Troisième chose, c'est la justice. Troisième phrase, c'est la justice. Il n'y a pas de paix sans justice. Et la justice repose sur la paix. Et une paix véritable doit être construite sur la justice. Et nous voulons la justice. Et nous réclamons la justice. Et il faut que la justice internationale, la justice humaine, la justice, la vraie justice, et que les victimes soient réhabilitées. Les Congolais ont eu beaucoup de victimes. Et nous en avons marre. Il faut que nos victimes aient droit à la justice et à la réparation.
Merci.
Nous avons besoin de réparation et il faut que la communauté internationale nous accompagne.
Merci Dispense Kitenge, dialogue entre Congolais, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Pierre Diafinois qui était à la mise en onde derrière les caméras. Jonathan Fonani, Clément Chimanga et Hervé Boka. Réalisation Guy Maté, assisté par Bertin Kassiama et Freddy Bikou. Martin Sebouchangui a supervisé ce magazine. Présentation et coordination, Kéline Couté. Restez branchés sur la fréquence de la paix.